Commencer notre 61e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. On va regarder ce soir le 19e siècle. Bien entendu, on a regardé un peu au 18e et au 19e les différents réveils qu'il y a eu sur la terre entière en général. Et à la même époque, il y a eu aussi la fondation de quatre grandes contrefaçons du christianisme. C'est ce qu'on va commencer à regarder. On va les regarder une par une, avec un peu leur histoire et un peu ce qu'ils croient, et un peu aussi un début de réfutation de leurs erreurs théologiques. Alors, les contrefaçons du christianisme authentique ont existé, bien entendu, à toutes les époques. Nous en examinerons quelques-unes qui ont marqué notre époque, qui sont encore bien vivantes, et qui ont vu le jour au cours du 19e siècle. Alors, on a les Adventistes du 7e jour, on a aussi les Témoins de Jéhovah, on a aussi l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons, et on a aussi le mouvement qui s'appelle la science chrétienne, avec celle qui l'a dirigée pendant des années, qui, ça continue d'exister encore et d'influencer chez les chrétiens. Alors, on va les garder un par un. Cette semaine, on va voir les Adventistes du 7e jour. Et ensuite, on va les regarder les autres une par une. Alors, on va étudier brièvement comment elles ont été fondées, quelles sont leurs principales croyances, une idée de leur importance et de leur influence, ainsi que la dénonciation et la réfutation de leurs principaux faux enseignements. Alors, on sait que le malin est le singe de Dieu, il est le maître de la contrefaçon. Alors, quand on sait que durant la même époque, il y a eu des réveils, on sait que le malin, lui, de son côté, travaille pour amener des contrefaçons du véritable christianisme. Alors, on va parler un petit peu de comment les Adventistes du 7e jour ont vu le jour. Alors, il est à remarquer que plusieurs des leaders des sectes ont beaucoup de charisme et de fortes personnalités. On va le voir un petit peu. Les Adventistes, un de leurs fondateurs, ça a été William Miller, qui a vécu entre 1782 et 1849. C'était un pasteur baptiste, qui a été aussi fermier et militaire, et ses enseignements sur la deuxième venue du Christ ont entraîné plusieurs adhérents à sa doctrine. Voyez-vous, à l'époque, sur 17 millions d'Américains qu'il y avait aux États-Unis en 1844, environ 150 000 personnes, qui est une estimation la plus probable, qui ont attendu le retour du Christ à cause de ses prophéties et furent connues sous le nom des millérites. Alors, aux États-Unis, il y a eu ce grand mouvement-là. Alors, quand on dit que c'est des leaders forts, pour entraîner 150 000 personnes à ta suite, il faut que tu aies de la suite des idées, comme on dit. Alors, l'influence de ces thèses religieuses a amené la fondation des Adventistes du 7e jour. La principale idée défendue par Miller fut la prédiction prophétique du retour du Seigneur pour 1843-1844. Alors, j'ai trouvé un article sur Wikipédia qui vraiment donne un résumé de tout cela. Bien sûr, on pourrait aller dans beaucoup de détails, mais on va se contenter d'un résumé. Alors, voici comment Wikipédia parle de cette période. William Miller ne s'astreignit jamais à donner une date précise au retour du Christ. Il se contentait d'indiquer que ce serait vers 1843-1844. Mais la critique de leurs opposants et l'enthousiasme de leurs supporters forcèrent les dirigeants millérites à examiner la question de plus près. Selon la tradition des Juifs cariaïtes, qui avaient préservé leur calendrier religieux sans le discontinuer à travers les siècles, l'année juive de 1843 s'achevait non à l'équinoxe le 21 mars, mais selon eux le 18 avril. Mais rien ne se passa, mais Miller ne fut pas terriblement déçu dans la mesure où il n'avait pas clairement établi une date. Il reconnut son erreur, mais citant Habacuc 2:3, il attira l'attention sur le fait qu'un retard était possible. D'autre part, les millérites découvrirent qu'il fallait ajouter une année à leur calcul, car historiquement, l'an zéro n'existait pas. Le 12 août 1844, lors d'un camp meeting à Exeter, dans le New Hampshire, Samuel Snow, qui a vécu entre 1806 et 1870, qui était un prédicateur millérite, suggéra que le retour du Christ aurait lieu le 22 octobre 1844, qui, selon le calendrier juif karaïte, était la date du Yom Kippour, donc le jour des expiations. On appela l'annonce de ce message le mouvement du septième mois, parce que, selon Lévitique 16, le jour des expiations se déroulait au septième mois de l'année juive. Les dirigeants millérites furent pris par surprise par la vitesse de propagation de la nouvelle. Alors, Miller accepta la date seulement au début d'octobre 1844. Alors, pour résumer, au début, il ne voulait pas nommer une date précise, puis sous la pression, il a fini par donner une date précise. Alors, bien entendu, quand quelqu'un fait une prédiction comme ça, à la date, quand ça n'arrive pas, il y a des conséquences à tout ça. Alors, bien entendu, le grand désappointement est arrivé en octobre 1844. Alors, cet enseignement allait alors à l'encontre de la croyance populaire qui annonçait les débuts imminents d'un millénaire de paix et de prospérité sur Terre, donc le post-millénarisme. Les Américains pensaient que le Christ reviendrait après le millénaire d'Apocalypse 20, alors que les millérites annonçaient qu'il viendrait avant. Alors, cette position était atypique, car il n'était pas question non plus d'un règne terrestre du Christ pendant un millénaire. La non-venue du Christ en 1844 a été nommée le grand désappointement ou la grande déception. Beaucoup de millérites furent très déçus. William Miller reconnut son erreur, mais il n'abandonna jamais sa croyance au retour du Christ, même s'il encourageait les millérites à ne pas fixer de date. Le 10 novembre 1844, il déclara « Mon esprit est parfaitement calme et mon espérance en la venue de Christ plus forte que jamais. J'ai fait seulement ce que je ressentais après plusieurs années de sobre considération comme étant mon devoir solennel. » Fatigué et malade, Miller considéra que sa tâche était terminée. Il laissa la direction du mouvement à Joshua Himes. Il devint aveugle au début de 1848. Le 20 décembre 1849, il mourut paisiblement. Alors, plusieurs millérites continuèrent à vouloir propager leurs idées, mais le mouvement se divisa en trois groupes. Ceux qu'on a appelés les adventistes spiritualistes, ceux qu'on a appelés les adventistes d'Albanie et ceux qu'on a appelés les adventistes du septième jour. Alors, sous l'impulsion de ses cofondateurs, Joseph Bates, James White, Ellen White, alors ici, James White, c'était un pasteur qui travaillait pour les millérites et Ellen White était sa femme. On va voir que Ellen White a eu une influence énorme sur le développement des Adventistes du septième jour. Alors, officiellement, l'Église Adventiste du septième jour fut fondée en 1860. Alors, à cette époque-là, il y avait seulement 3000 personnes qui étaient Adventistes du septième jour. Alors là, on va regarder un petit peu le rôle de Ellen White. Alors, le gros problème avec les Adventistes, c'est qu'ils ont considéré Ellen White comme étant une prophétesse. Alors, ils mettent bien souvent ses écrits et ses dires presque sur le même pied d'égalité que les Écritures. Moi, personnellement, j'ai déjà lu une brochure qui a été écrite par elle. Elle écrit vraiment très bien. C'est pas tout. On ne pourra pas dire que c'est tout à racheter en bloc. Il y a des affaires qu'elle a écrites qui sont vraiment bien. Margot, elle a vécu entre 1827 et 1915. Alors, Ellen Gould, son nom de fille, c'était Gould White. Alors, elle a vécu du 26 novembre 1827 au 16 juillet 1915, jusqu'alors, elle est morte à l'âge de 88 ans. Elle est une chrétienne américaine dont le ministère contribua à fonder avec Joseph Bates et James White, son mari, l'Église adventiste du septième jour. Alors, c'est la principale inspiratrice du mouvement. Elle fut un guide spirituel, une revivaliste, une prédicatrice, une missionnaire et une réformatrice militant pour la vie familiale, l'éducation, la santé et une hygiène de vie holistique. Mais elle n'occupa jamais aucune position de direction dans l'Église adventiste. Une des caractéristiques des adventistes, c'est vraiment de mettre beaucoup l'accent sur la santé. Alors, eux, dans leur milieu, il y a des études, semble-t-il, qui ont été faites, et les gens qui suivent leur enseignement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans le domaine de la nourriture et de l'alimentation, de la nutrition, qu'eux, ils ont beaucoup poussé ça là, dans la dénomination. Il semble-t-il que ça porte vraiment du fruit. Là. Alors, parce qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup de choses, mais on pratique peu de choses. Alors qu'eux, ils ont mis l'accent là-dessus, mais ils pratiquent. Alors, au cours de ses 70 ans de ministère, Ellen White écrivit 26 livres et plus de 5000 articles pour divers périodiques. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 130 titres ont été publiés en anglais, incluant de nombreuses compilations de ses 55 000 pages de manuscrits. Alors, elle a beaucoup écrit. Son œuvre fut essentiellement consacrée à la spiritualité chrétienne, centrée principalement sur le second avènement du Christ. Elle écrivit sur des sujets touchant à la vie pratique chrétienne, l'évangélisation, l'éducation et la santé. Son œuvre et son engagement contribuèrent à l'organisation et à l'expansion mondiale de l'Église adventiste, à l'établissement de nombreux modes de diffusion du message du retour du Christ et à la création d'un important réseau d'établissements scolaires, universitaires et médicaux dans le monde entier. Alors, les adventistes attribuent une dimension prophétique à son ministère, estimant qu'elle a eu environ 2000 visions. Alors, c'est peut-être là que c'est peut-être un petit peu dangereux. Mais il reste que, dans l'ensemble, elle peut quand même avoir contribué à des bonnes choses, fondations d'hôpitaux, etc. Alors, fidèle à l'esprit du protestantisme, Ellen White appela toujours ses lecteurs et ses auditeurs à enraciner leur foi sur le seul témoignage de la Bible. On estime aujourd'hui à plus de 18 millions de membres le nombre de leurs adhérents dans le monde entier. Alors, c'est quand même pas à négliger. Dans presque toutes les villes où tu vas, ici, je pense pas qu'il y en ait à Rouyn-Noranda, mais il y en a à Malartic. Je sais qu'il y en a à Québec, dans toutes les grandes villes, il y en a. À Sherbrooke, il y en a. Alors, ce que j'ai voulu faire, on aurait pu aller beaucoup plus dans les détails, dans tout le développement de tout ça, mais ce que j'ai voulu faire, surtout, c'est de regarder comment ça a été fondé, et c'est quoi les circonstances, et aussi, après ça, regarder sous forme de tableau. Alors, j'ai mis un tableau. Ce que la Bible enseigne sur Dieu, sur Christ, sur les différentes choses, eux, ce qu'ils enseignent et ce que la Bible enseigne, qu'on les mette en parallèle pour qu'on voit leurs principales erreurs. Alors, ce que les Adventistes enseignent, les Adventistes du septième jour enseignent sur Dieu, bien sûr, ils enseignent que c'est un Dieu personnel. Mais la Bible est beaucoup plus claire que ça, nous dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, Jean 4, 23. Et la Bible enseigne aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5. On a aussi Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Genèse 1, 26. Et on a Matthieu, chapitre 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, les cieux s'ouvrirent et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Une voix fit entendre des cieux cette parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et on a aussi Deutéronome 4, 36, « L'Éternel est Dieu, il n'y en a point d'autre. » Alors, on continue. Aussi, Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et le dernier, hors de moi. Il n'y a point de Dieu. » Alors, bien entendu, après, on prend sur Dieu, mais ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'ils enseignent sur Jésus-Christ. Alors, ce que les Adventistes enseignent sur Jésus-Christ, ils disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais que Jésus-Christ est revenu en 1844, non pas sur la terre, mais dans le sanctuaire, à quelque part dans le ciel. Alors, selon eux, Jésus-Christ est occupé à examiner les péchés commis par son peuple. Alors, bien entendu, la Bible dit beaucoup plus de choses que ça sur Christ, mais je ne veux pas dire qu'il enseigne uniquement ça, là, mais c'est l'essence. Alors, la parole nous dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, Jean 1, 14. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître, Jean 1, 18. Il était au commencement avec Dieu, Jean 1, 1. Matthieu 1, 18, Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par le Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Romains 1, 14, déclaré fils de Dieu d'une manière puissante, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Et 1 Corinthiens 15, 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine aussi. Hébreux 7, 25, c'est pour cela que Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et on a aussi Acte 1, 11, Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ça corrige un peu leur fausse conception, comme de quoi qu'il est déjà venu en 1844, puis il est au ciel, puis il est en train d'examiner les péchés de son peuple. Et il y a d'autres versets qu'on pourrait aller voir, 1 Corinthiens 15, 17, Jean 14, verset 3, Matthieu 25, verset 13, et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Alors maintenant, sur le Saint-Esprit. Pour résumer un peu leurs enseignements, le Saint-Esprit est Dieu et une personne. Alors, bien entendu, la Bible donne beaucoup plus de détails que ça. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, acte 2, verset 14. Et dans Matthieu 28, 19, on lit « Allez, instruisez toutes les nations, baptisez-les ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, sur le péché, je dirais que c'est peut-être là où le bas blesse le plus, parce que les autres, on a vu que dans l'ensemble, c'est quand même... Mais sur le péché, là, on va voir que ce qu'ils enseignent n'est pas tout à fait exact. Alors, selon eux, ils enseignent sur le péché que Jésus est occupé actuellement à examiner les péchés des croyants. Et il plaide auprès de son Père pour qu'il les pardonne. Quand cet examen est terminé, il prendra tous ses péchés pardonnés et les mettra sur Satan. Satan, à l'exemple du bouc émissaire, portera tous nos péchés dans le néant où il sera anéanti avec eux. Alors, ils enseignent que les pécheurs inconvertis seront damnés et punis avec le diable pendant 1000 ans. Puis seront anéantis. Alors, on voit ici qu'ils introduisent l'autre erreur que la négation de l'enfer. Alors, ce que la Bible enseigne sur le péché, bien sûr, dans la Bible, on a 1 Jean, chapitre 3, verset 4, le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 5, verset 17, toute iniquité est un péché. Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Job 4, verset 17, « Celui qui sait faire ce qui est bien, il ne le fait pas, commet un péché. » Et Jean 16, verset 8 à 10, « Il, en parlant du Saint-Esprit, convaincra le péché, convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, en Jésus, bien entendu. Mm. » Romains 3, 23, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. » Et il est méchant. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 5, verset 8. Vous vous souvenez fort probablement dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, de ce passage où on met les péchés sur la tête du bouc, ça va Azazel dans le désert. Alors fort probablement qu'ils vont chercher cette histoire-là là-dedans et ils disent que c'est Satan qui va porter péché. Alors, c'est des erreurs assez importantes. Alors, on va regarder maintenant ce qu'ils enseignent sur la rédemption avec la Bible. Alors, selon eux, un substitut fut accepté par Dieu à la place du pécheur, mais le péché ne fut pas effacé par le sang de la victime expiatoire. Alors, on voit que c'est une erreur assez grave. Par le sang versé pour lui, le pécheur accepte simplement l'autorité de la loi et exprime son désir de pardon. Après son ascension, Christ vint plaider au nom de son sang versé auprès de son Père en faveur des croyants, mais leurs péchés restèrent enregistrés jusqu'en 1844, qui est la fin des 2300 jours de Daniel. Alors on voit qu'une erreur, quand elle se perpétue, elle amène toujours d'autres affaires. Alors il entra, selon eux, dans le sanctuaire pour commencer le travail d'investigation de ses péchés. Et selon eux, tous les péchés de celui qui se repent seront portés en fin de compte sur Satan, qui est l'auteur du péché. C'est pour ça que les Écritures nous enseignent. Alors, quand le travail, selon eux, du Rédempteur sera achevé par Christ dans le sanctuaire, les péchés des enfants de Dieu seront mis sur Satan. Et il sera déclaré coupable de tous. Alors ça, c'est leur enseignement. Bien entendu, je pense qu'il faudrait aller plus en détail que ça, mais dans le fond, ce qui est retenu, c'est leurs principales idées. Alors les Écritures nous disent que le sang de Jésus nous purifie de tout péché dans Jean 1, 7. Matthieu 26, 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » 1 Pierre 1, 19, « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre par le sang précieux de Christ. » Éphésiens 1, 7, « En lui, en parlant de Christ, nous avons la rédemption par son sang. » Hébreux 9, verset 12, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Romains 3, 25, « C'est Jésus que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang. » Et Apocalypse 5, 9, « Les quatre animaux et les 24 vieillards disent à l'agneau immolé, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Maintenant, sur le salut, on va aller regarder de l'autre côté. On va d'abord lire ce qu'ils enseignent sur le salut. On reviendra sur cette page-là. Alors, pour eux, l'observation de la loi, alors il y a beaucoup d'emphase de mise sur le décalogue. Pour eux, c'est nécessaire au salut. Alors là, qu'elle ait encore de la place dans la vie du chrétien, c'est une affaire, mais qu'elle soit nécessaire au salut, ça en est une autre. Alors, selon eux, la loi de Moïse n'a jamais été abrogée. Là-dessus, la loi de morale n'a jamais été abrogée, mais la loi cérémonielle et civile a été abrogée. Alors, selon eux, les croyants qui n'observent pas le sabbat, qui pour eux est le samedi, selon eux, à cause de ça, sont perdus. Si vous ne l'observez pas, vous êtes infidèle et Christ effacera votre nom du livre de vie. Vous serez perdu éternellement. Alors, quand Christ reviendra sur terre, 144 000 personnes seulement seront sauvées parmi les vivants. Et ceux-ci seront les adventistes parce qu'ils seront les seuls qui n'auront pas la marque de la bête. Alors, on voit que ça amène des erreurs très importantes, leurs enseignements sur le salut. Alors, les Écritures nous disent à tous ceux qui ont reçu la lumière, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 2. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean chapitre 3, verset 7. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tite, chapitre 3, verset 5. Il, en parlant de Jésus-Christ, nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Éphésiens 2, versets 8 et 9. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 3, 23, 24. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jean 6, 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Romains 10, 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Jean 20, verset 31. Mais ces paroles ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Et Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on a aussi dans les Écritures, pour le salut, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et une autre grave erreur qu'amène, c'est bien l'enseignement. Leur enseignement sur l'enfer, ils sont ce qu'on appelle les annihilationnistes. Alors, ils disent que l'enfer, ils vont souffrir pour un certain temps, mais qu'après un certain temps, ils vont être annihilés. Alors, encore là, c'est pas ce que les Écritures nous enseignent. Alors, on va regarder ce qu'eux enseignent sur l'enfer. Alors, selon eux, tous ceux qui sanctifient le dimanche ont sur eux la marque de la bête et ils seront éternellement damnés. Et ils disent aussi que toutes les églises, excepté les adventistes, sont ce que la parole de Dieu appelle Babylone. Ils seront rejetés par l'Éternel. Alors, selon eux également, après la mort, les âmes dorment jusqu'au commencement des 1000 ans, où Satan et ses émissaires occuperont la terre. Alors, selon eux, au retour de Christ, les adventistes seuls seront enlevés à sa rencontre. Et également, selon eux, après que Satan et ses adeptes auront habité cette malheureuse terre pendant 1000 ans, ils seront anéantis. Alors, selon eux, il est parfaitement déraisonnable de croire que Dieu permette aux pécheurs d'exister éternellement comme une tâche sur sa création. Alors, c'est vraiment des dérapages sérieux. Lorsque la Bible nous enseigne sur l'enfer, ceux-ci, Jésus, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et ce qui est remarquable, c'est que dans ces passages-là, quand tu vas voir les mots grecs, c'est « aionion » pour parler de la vie, et « aionion » pour parler de la perdition. Alors, c'est le même mot utilisé par le Saint-Esprit pour parler de la vie éternelle que pour parler de l'enfer éternel. Alors, Matthieu 5, 29, « Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Matthieu 5, 29, Apocalypse 20, versets 14 et 15, « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. On a aussi Daniel, chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Matthieu 22, verset 13. Le roi dit de l'homme n'ayant pas d'habit de noces, jetez-le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Apocalypse 20, versets 12 et 13, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. » Et Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors, j'ai mis une application. C'est notre devoir de bien connaître les contrefaçons du christianisme afin de pouvoir les réfuter et de défendre la saine doctrine. Dans Tite, chapitre 1, verset 9, on lit « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demanderait raison de l'espérance qui est en vous. » Et on a aussi le verset dans 1 Corinthiens 11, verset 19, qui nous avertit qu'il faut qu'il y ait des sectes. Car il dit « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. » Alors rappelons-nous constamment la promesse du Seigneur dans Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Alors adorons notre grand Dieu de vérité qui nous gardera dans le chemin étroit et resserré jusqu'à la fin. Amen. Amen.